Là. Ça va pas?
La revanche des frileux.
Vous ça êtes marqué, Anthony Clément, vous êtes marqué par le froid.
Non, ça va, mais j'ai une sale gueule, deux fois.
C'est vrai.
Ouais. Ah, vous avez une sale gueule, hein. On dirait que vous avez déjà fait Noël.
Ah ouais, merde.
C'est le Canada, ça.
Allez, on y va.
On y va? Allez. Oui. Allez, générique.
Il est bien, ton bouquin? Casse pas des briques. Il tient. Je comprends rien.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Mais ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
J'ai failli rentrer dans le Darwin Book. Quel idiot. J'ai failli me tuer en me mettant l'écharpe dans le sac et en tirant la fermeture éclair. Vous connaissez pas le Darwin Book?
Non.
Darwin Records, c'est l'inventaire des morts les plus cons. Et chaque année, il y a un prix. C'est génial. Et mon préféré, je crois que ça reste une espèce de géologue au Groenland qui veut faire sauter une calotte glaciaire. Il envoie un bâton de dynamite, sauf qu'il a un chien.
Ah.
Et le chien, quand il voit ça, il va chercher le bâton. Et mon chien s'appelle Revient.
Allez, on est des fous.
Allez. Et puisqu'on parlait de calotte glaciaire, et on est en plein dedans, vous étiez en plein dedans. Bienvenue. Comment je dois dire? Qu'est-ce que vous faisiez à Montréal?
Ah, c'était ben bon. Hein.
Qu'est-ce que vous foutiez au Canada? Tapis au fond des bois?
C'était extraordinaire.
On peut préciser que c'était pour le travail, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, ça va, le mec il raconte ses vacances. »
Exactement. Alors déjà, c'est très rare.
Les vacances d'Anthony Clément.
Qui n'arrivent à peu près...
C'est ça.
Jamais.
Alors il était comment, le sirop d'érable?
Donc c'était des vacances professionnelles. J'ai eu la chance de faire partie de la délégation de 10 libraires francophones invités pour le Salon du Livre de Montréal, par Québec Édition. Donc il y avait deux Belges, une Suisse, la librairie francophone à Londres.
Excusez-moi, on entend votre main quand vous astiquez.
Puis une petite délégation de 5 libraires français arrivant des horizons de Lille, Rennes, Marseille, Toulouse et Mont-de-Marsan.
Et Mont-de-Marsan.
Voilà. Incroyable.
Bilan.
Bilan extraordinaire, une très très belle énergie autour des métiers du livre avec une économie un peu différente. C'est-à-dire par exemple, nous on a la loi Langue, là-bas ils appellent ça la loi du livre ou la loi 51, mais c'est à l'initiative de Denis Vaugeois, la même année que la loi Langue, en 1981, à un mois après.
Ouais.
Voilà, donc c'est pas exactement la loi du prix unique du livre.
Vous rappelez pour une fois là, uniformiser le prix du livre.
C'est pas dans ce sens en fait,
ouais.
Parce qu'il n'y a pas de prix unique du livre.
D'accord.
Même s'il y a des conditions quand même pour encadrer le prix du livre via les éditeurs. Mais par contre, c'est une loi beaucoup plus interprofessionnelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une vraie défense. Alors certains l'appelleraient du protectionnisme.
Ouais.
D'autres appelleraient ça plutôt protéger une culture ou une culture francophone pour le coup. Donc avec une mise en avant des éditeurs québécois extraordinaire, garantie par les libraires pour le coup, qui doivent absolument proposer une très très belle sélection d'auteurs québécois et de littérature francophone. Voilà. Du Canada. Et ensuite, l'obligation aussi pour les médiathèques, par exemple, aussi, d'acheter sur 3 librairies de leur territoire.
D'accord.
Voilà, donc c'est très, très intéressant. Ça évite, évidemment, ces marchés, des fois, où on se retrouve. On a déjà retrouvé des librairies bordelaises, par exemple, qui livrent à Grenoble. Hein. Je ne citerai personne.
Mais, non, on va pas faire de
problème. Mais pour le coup, voilà, c'est-à-dire que c'est une loi qui est plutôt intelligente et qui crée aussi des amitiés interprofessionnelles. On n'est pas chacun... les uns dans son corps de métier, les libraires avec les libraires, les éditeurs avec les éditeurs, les bibliothécaires avec les bibliothécaires, mais plutôt voilà, un maillage extrêmement intéressant. Et c'était une semaine de rendez-vous intense, dès le matin jusqu'à tard le soir.
Oui.
Tout ça en tournant autour du Salon du Livre de Montréal, où évidemment la France est extrêmement bien représentée. Donc voilà, j'en reviens pas de la gentillesse, de l'invitation.
Vous êtes revenu.
Voilà, j'en suis revenu, j'y serais bien resté encore.
Sous des températures caniculaires, comme on peut l'imaginer.
Oui, j'avoue que le -15 le premier jour m'a un peu titillé, moi qui suis un enfant du soleil, mais...
Ouais.
Mais voilà, très très belle expérience, vraiment. Ouais. Et genre, il y aura des retombées, évidemment, ici, puisque beaucoup là-bas se sont déjà engagés à venir sur 2023.
Oh, il n'a pas perdu son temps.
Voilà, de très beaux rendez-vous en perspective.
Et je vois déjà les couves des bouquins, je vois de la neige et des sapins. Du coup, il a ramené des livres de là-bas ou il est resté dans la thématique de saisonnalité?
Pas du tout. C'est juste qu'on se rapproche de Noël.
Oui,
donc j'ai quitté un peu le roman, je suis allé vers le livre un peu plus illustré. Donc voilà, ma petite chronique sera un peu hétéroclite ce matin. Mais je pense qu'elle va vous ravir.
J'ai envie de me faire une pause avec un chanteur canadien.
Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault-Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me. Oh, Louise, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil, I did work till work was done. And one day the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head, and I can't hide. Oh no, 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 no. And the rage turned in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63, kids are gone, and so is Louise. Ontario did it go near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down tous les jours. And I remember the days and the promises that we made. Oh, Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise.
Et ça, j'ai jamais compris ça. D'ailleurs, pourquoi les gars, ils ont un accent et quand ils chantent, ils l'ont plus. Allez savoir. Anthony Clément.
Oui.
Des livres, des ouvrages, des recueils, des pages, des auteurs et des idées à mettre au pied du sapin.
Très bien. Alors, je commence avec un livre en rupture.
Merci, j'adore.
À mettre au pied
Collector,
du sapin.
Collector, 1500 euros.
Non, du tout. Hein. Il nous en reste quelques-uns et il est en réimpression, devrait évidemment être disponible avant Noël. Ça s'appelle Sans forester. Très, très beau livre. On est pas dans le
néologie.
Coffee Table Book, c'est-à-dire le livre voilà, que l'on pose sur la table. Livre d'art, parce que non, on mêle non seulement la photographe Andrea Olga Mantovani, mais aussi le philosophe Baptiste Morisot. Sans forester, on est donc à la rencontre entre une photographe, un philosophe et une forêt. Et pas la moindre, pour le coup, puisque c'est notre dernière forêt primaire en Pologne, aux limites de la Biélorussie. La forêt qu'on pourrait appeler une forêt relique. Et donc, en fait, on n'est pas sur l'histoire de la forêt qui s'appelle Bialowitsa, mais on est plutôt sur le mythe des forêts des origines, c'est-à-dire qu'il va, Baptiste Morisot par son texte et Mantovani par ses photos, réinterroge par le prisme de la forêt origine, donc de la forêt relique, de la forêt qui était là au néolithique, mais on n'est pas voilà, sur une histoire de la forêt, une histoire des forêts, parce qu'il y en aurait plusieurs des histoires des forêts à partir du moment, et c'est ce qu'il rappelle aussi Baptiste Morisot, le philosophe, c'est-à-dire que l'histoire des forêts n'est pas seulement l'histoire de la multiplicité des arbres dans une zone, il y a évidemment la dimension mythologique, la dimension sociologique, la dimension anthropologique, l'histoire, les mythes, les fantasmes, les légendes, la réalité, l'économie de la forêt. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il appelle un peu toutes les notions autour de l'histoire de la forêt, enfin des forêts, par le prisme d'une seule forêt. Bielovitsa interroge les gens là-bas, réfléchit, questionne son histoire et en même temps nous rapproche de la nôtre pour évidemment faire une place de plus en plus importante aux vivants dans les années qui arrivent, puisque on le voit, les multiples crises sont là et se multiplient et nous annoncent.
Oh, c'était bien 2022.
Avenir, ouais. Voilà, un avenir assez sombre. Donc du coup, voilà, c'est nous remettre au milieu de la forêt, de ses enjeux, et en même temps questionner l'anthropisation justement voilà, des forêts aujourd'hui. Donc c'est vraiment passionnant, c'est une sorte d'exercice de mythologie réelle, quelque part. Voilà,
ouh, tout ça. Mythologie réelle.
Avec de très très belles photos, seul Anthony évidemment
oui.
peut le voir justement, pas forcément voilà, que de la forêt, mais aussi les gens autour. Un livre d'imprégnation, voilà.
Avec
voilà.
Tous ces mystères des neiges slaves.
Très très beau, ça s'appelle Sans forester, ouais. C'est aux éditions D'une rive à l'autre, voilà, que je connaissais pas.
Même le nom de la maison d'édition est chouette.
Voilà, Sans forester, bientôt disponible, je pense qu'il nous en reste un ou deux pour Noël, très très beau. Je poursuis, je ne lis pas beaucoup de mangas. Je vous ai jamais parlé de manga.
Jamais.
Voilà, je suis tombé amoureux au Lézard Noir de la cantine de minuit. On est très très éloigné des tendances du manga aujourd'hui.
Ah,
on
oui.
est vraiment proche de la BD, mais ça se lit quand même de la gauche vers la droite. Moi, c'était un exercice pas simple au départ. La cantine de minuit, c'est extrêmement touchant. Le principe, on est dans un petit restaurant situé au fond d'une petite ruelle tokyoïte. On est à Tokyo, dans une petite ruelle du quartier de Shinjuku. Et un patron, extrêmement bienveillant, toujours en retrait en fait, reçoit de minuit à 7h du matin, c'est l'ouverture de son restaurant, donc c'est la cantine de minuit, reçoit évidemment les tokyoïtes de passage, donc ça peut être autant des stripteaseuses que des yakuza,
ah
que
oui.
des gens du quartier, et tout ça dans des petites scénettes extrêmement touchantes, c'est une sorte de l'éloge de la quotidienneté, voilà, ouais. dans les ruelles tokyoïtes, et tout le temps, chaque petite histoire s'ouvre par un plat. Donc là, on commence avec les Wiener rouges, qui sont des petits saucisses taillées en forme de...
Ah, c'est un livre à dévorer, quoi.
C'est un livre à dévorer. En fait, lui, il annonce, dès le départ sur sa devanture, qu'il ne sert qu'un seul plat. Mais tout ça est faux, puisqu'en fait, il sert ce que vous avez envie, à partir du moment où il le possède. Donc vous venez, et si vous avez des petites envies gastronomico-nostalgiques, voilà, d'un petit plat qui, enfant, vous réveillez les papilles en même temps, adulte vous ramène justement dans ses souvenirs, ben il vous le prépare. Voilà,
c'est pas une super idée de resto, ça.
Mais c'est une magnifique idée de resto. Donc
et
on est
cadeau.
Justement sur ce petit comptoir et chaque habitué a ses petites raisons pour débouler une fois par semaine, deux fois par semaine et tout ça pour pouvoir échanger autour de ce petit comptoir avec la figure bienveillante de ce patron cuistot. Voilà, cantine de minuit, très très beau. On est au 12e tome. Voilà, on peut commencer au milieu. J'invite évidemment pour, dans la chronologie et la formation des personnages, à commencer par le 1. Mais c'est vraiment brillant, c'est extrêmement touchant. C'est de Yarrow Abe aux éditions du Lézard Noir. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être lecteur, lectrice de manga pour vous perdre dans les petites ruelles tokyoïtes et tomber dans le petit restaurant, la cantine de minuit.
D'accord. Voilà. Entrée, plat, qu'est-ce qu'on a? Fromage, dessert, salade. On a le dessert en direct. Allez.
On parlait en tout début de chronique, c'est une sorte de chronique.
Un coït.
Un coït de chronique.
Les gens qui vous écoutent, peut-être, ils sont au lit.
Oui. En effet, donc on parlait justement,
il fait très
et ce
froid.
Mot voilà, fait un peu peur, l'interprofession, mais on va parler des maillons de la chaîne du livre. C'était très attendu par les professionnels du livre, on va dire.
Ah ouais, le titre qui tue.
Et notamment, en termes, puisqu'on a fêté les 10 ans de la médiathèque du Marsan, je sais que, petit clin d'œil au bibliothécaire de la médiathèque du Marsan, puisque pareil, il l'attendait de pied ferme, s'appelle « La revanche des bibliothécaires », un livre de Tom Gold aux éditions 2024, juste pour faire le parallèle avec le Québec. C'est publié aux éditions Alto, au Québec.
Oui, d'accord.
Il y a une dimension, je fais juste une petite parenthèse.
Non, mais vous touchez un billet, j'ai bien compris.
Non. J'ai pris la mesure de quelque chose que l'on ne prend pas forcément ici. J'ai pris la mesure, en fait, de l'importance de la production du livre au Québec et surtout de la cession de droits. C'est-à-dire que bon nombre d'éditeurs dont on défend et crie l'originalité, bah, en fait, vont se servir quand même dans les catalogues au Canada. D'accord. Ou alors font des coéditions. Par exemple, tout le monde connaît Monsieur Toussaint Louverture.
Oui.
Voilà. Blackwater, par exemple, c'est en coédition avec Alto, la maison d'édition de La Revanche des Bibliothécaires. Et 2024, qui publie La Revanche des Bibliothécaires, c'est une coédition avec Alto aussi. Sauf que les Français ne mettent pas souvent la coédition.
D'accord.
Voilà.
Le livre. Petit aparté.
La Revanche des Bibliothécaires, en fait, c'est des petits scripts, petites pages à chaque fois.
C'est pas que pour les bibliothécaires.
Non. C'est autant.
C'est pas une réhabilitation. Ça voudrait dire que.
Pas du tout. En fait, ça, c'était des petites scénettes publiées dans le Guardian. Gold est né en 76. Il vit à Londres. Il publiait dans le Guardian des petites scénettes comme ça autour des métiers du livre. C'est très, très drôle parce que tout le monde va s'y retrouver. Voilà. Là, si je prends une page au hasard, 100 minutes de solitude pour évidemment 100 ans de solitude de Garcia Marquez. L'écume d'une nuit pour.
Je vois à peu près.
Voilà. 20 minutes sous la mer. L'heure des Trifides ou la semaine terrible de Hugo. Bref, en fait, il revisite les classiques, mais surtout les anecdotes aussi actuelles autour des métiers du livre. Avec, par exemple, il y a un générateur de romans noirs à succès, ou un générateur de familles excentriques pour romans.
Oh, voilà, Xavier, on aurait pu le faire, ça, pour le coup.
Exactement. Et donc, du coup, par ces petites scénettes, tout le monde s'y retrouve. Pas seulement les bibliothécaires, il fallait bien donner un titre, mais évidemment les lecteurs, les lectrices, les libraires, les professionnels du livre et surtout les amoureux du livre. Puisque c'est un véritable hommage à la lecture. Tout ça sous l'œil plus ou moins bienveillant du chat de l'écrivain. Voilà, vous avez par exemple le générateur de familles excentriques pour romanciers. Voilà, donc tu peux choisir une grand-mère, savoir si elle est imposteur, talentueuse, paresseuse, affable ou flagorneuse.
Ça profile les lecteurs.
Voilà, ça profile en fait les lecteurs, les écrivains, les libraires, les bibliothécaires. Voilà, avec des panneaux de signalisation pour romans gothiques. Voilà, attention, traversée de figures fantomatiques, tunnels fermés pour cause de malédictions antiques. Donc ça, évidemment, ça questionne aussi les tendances.
Ouais.
La tendance à Harry Potter, livres gothiques, la science-fiction. Tout le monde y clôt. Tout ça est très, très jouissif. C'est pas cynique. C'est sorte de petite blague très fine, mais inoffensive en même temps. On n'abîme pas non plus les cahiers de tout le monde. Mais en même temps, on se questionne sur nos habitudes de lecture et sur nos travers de lecture. Voilà. Voilà, c'est passionnant. La Revanche des Bibliothécaires, c'est aux éditions 2024. Ça va devenir très certainement votre petit livre de chevet.
On vous met les couves, de toute façon, sur le podcast, à retrouver sur www.radio-mdm.fr. En même temps qu'on vient chercher des suggestions cadeaux, il y a quand même les animations pour suivre tout au long du mois de décembre.
Là on reçoit cette semaine pour Tibi la Blanche aux éditions de l'Iconoclaste, c'était la rentrée littéraire, donc Adrien Bels. Mm-hmm. Voilà. Et ensuite, la semaine prochaine, ce sera intense, puisque là on recevra les traducteurs, les éditeurs de Tristram, qui ont publié Les Grandes Espérances, le roman jamais très très bien traduit de Dickens.
Ouais.
Et ce sera Marie Chabin, grande traductrice du territoire, justement, notamment pour les éditions Actes Sud, qui fera la modération, une partie de la modération. Puis le 10, on sera sur des dédicaces de Noël.
Oui.
Voilà, avec trois auteurs surprises, on ne manquera pas de communiquer dessus.
Tu sais qui c'est.
Voilà, et puis après, on sera partenaire des marchés de Noël, comme celui de Saint-Perdon, par exemple, le 18 décembre.
Bon, ben, je vous laisse, vous. C'est quoi l'inverse de jet-lagué, en québécois?
Ouais, j'y suis encore un peu, hein, mais je suis revenu parmi vous.
À la semaine prochaine.